Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on va étudier le passage dans le livre de la Genèse. Le passage, ça va être Genèse 25, les versets 19 à 26. Genèse 25, versets 19 à 26. Alors, tout le monde est debout pour lire la parole. Genèse 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, tout simplement, « Les origines d'Israël et d'Édom ». Quand on lit les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, on va voir que la nation, les Édom ou les Édomites, c'est tous des descendants d'Ésaü. Et ça commence, c'est ici que le Seigneur avait dit à Rebecca qu'elle avait deux nations dans son ventre. Les deux, c'était des personnages qui deviendraient un Israël, l'autre les Édomites. Et on va voir que si on lit l'Ancien Testament avec attention, on va voir qu'ils ont toujours été, comme on pourrait dire, en opposition l'un à l'autre, en guerre l'un avec l'autre. Et on voit que le Seigneur, normalement, c'est toujours celui qui naît le premier qui aurait dû être béni. Alors, Ésaü sortit le premier. Mais qui est l'autre? Jacob le tenait par le talon. On va regarder ça un petit peu plus en détail tantôt. Il y a quelque chose de profondément significatif du point de vue théologique à l'intérieur de ça. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, les origines d'Israël et d'Édom. Je pense que le Seigneur veut nous enseigner sur sa fidélité à accomplir sa promesse d'envoi du Messie. Et à l'intérieur du passage qu'on va étudier, il le fait à l'aide de trois outils. On va les regarder un par un. Le premier outil, c'est la prière, le verset 19 à 21. On va comprendre tantôt pourquoi ils ont prié. La deuxième, c'est la protection dans le verset 22. Le Seigneur, elle avait deux jumeaux dans son ventre et les mots hébreux veulent dire qu'il était vraiment chicane. C'est comme si la chicane entre le charnel et le spirituel, le combat était dans son ventre puis elle pensait qu'elle y resterait sa vie, tellement que c'était intense. Là. Et la troisième affaire, c'est que le Seigneur fait une prophétie à l'intérieur de ce verset-là. Alors, ces trois choses-là sont dans le texte. Il faut parfois s'arrêter et réfléchir un peu à ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Pour qu'on puisse bien comprendre le texte d'aujourd'hui, il faut toujours se reculer un petit peu dans Genèse, aller voir les différentes sections, les différents passages où le Seigneur, la première fois que le Seigneur a dit qu'il enverrait un sauveur, c'est où? Genèse 3.15, c'est la première mention où, après la chute, le Seigneur a dit qu'il enverrait un Messie. Alors, Genèse 3.15, ça se dit dans la version Sterval, ça dit « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il parle au serpent. « Je mettrai inimitié », ça veut dire la chicane. On va mettre la chicane entre Satan et la descendance de la femme. Entre toi et la femme, mais la femme... le Messie est venu par une femme, c'est ça, alors c'est pour ça qu'il dit ça. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ta postérité à qui il fait la promesse, c'est Jésus à venir. Il parle de Jésus à venir. Il dit qu'il va mettre la chicane entre Jésus à venir, la postérité, et l'autre qui est la postérité du malin, donc les gens inconvertis. Après ça, il dit « Celle-ci t'écrasera la tête ». Autrement dit, Jésus va écraser la tête du serpent. Il dit « Celle-ci t'écrasera la tête ». Il parle au serpent. « Et toi, tu lui blesseras au talon. » Alors, ça, c'était la première mention de l'envoi du Messie dans l'Ancien Testament, à partir de la Genèse, juste après la chute. Après ça, il y en a eu d'autres passages où Dieu fait des promesses. Et il faut, si on veut bien apprécier le passage qu'on regarde aujourd'hui, il faut se souvenir que Dieu est en train d'accomplir les promesses qu'il a faites depuis le début. Il y a une continuité dans le livre de la Genèse, parce que des fois, quand on lit des passages dans un paragraphe particulier, on oublie qu'est-ce qui a été dit avant. Mais il ne faut pas l'oublier, parce que c'est le Seigneur est en train de nous démontrer « Je suis en train d'accomplir ce que j'ai promis à plusieurs reprises, à plusieurs personnes et de différentes manières. » Par exemple, dans Genèse 12, là, le Seigneur a fait une autre promesse à Abraham, cette fois-là. Dans les versets 1 à 3 de Genèse 12. Et l'Éternel dit à Abraham, tu vous remarquez dans le texte, il ne porte pas encore le nom d'Abraham, il a changé plus tard. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père, dans la terre que je te montrerai. Verset 2. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras en bénédiction. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai qui te maudira, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pas une petite promesse, ça, mes amis. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Est-ce qu'il parlait d'Abraham ou de sa postérité? Il parlait de sa postérité. « En toi, parce que par toi, le Seigneur va amener la lignée messianique jusqu'à Jésus. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, à cause de Jésus qui est venu, et non, parce que les Juifs, à l'époque, quand Jésus est venu, ils pensaient que le salut, c'était juste pour eux. Ils pensaient que le salut, c'était juste les Juifs. Ou à peu près, parce qu'il y avait quelques exceptions, là, mais il reste que, dans l'ensemble, le salut, avant l'arrivée de Jésus, ça s'adressait surtout aux Juifs. Et ici, il fait une promesse que c'est toutes les nations de la terre qui vont être bénies en sa postérité. Autrement dit, tu es en train de dire, toutes les nations de la terre vont être bénies en Jésus-Christ, qui est à venir. Après ça, il a fait un autre dans Genèse 22. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Genèse 22, de quoi ça parle? Genèse 22, c'est quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Là, il y avait un problème, parce que il disait... « Sacrifie ton fils », ça impliquait qu'il lui enlevait la vie. Et le Seigneur avait dit que c'était par son fils que viendrait la postérité. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la tête d'Abraham, il y avait un problème, là. Tu me dis que le Messie va venir par mon fils Isaac, puis tu me demandes de l'offrir en sacrifice. Alors, au moment où il a voulu le sacrifier, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est intervenu, puis il a permis que ça soit plutôt une chèvre qui t'as pris les cornes dans un buisson. C'est vraiment, tout ça, c'est symbolique pour parler que dans le fond. Alors, on va aller voir Genèse 22, versets 16 à 18. C'est encore une autre promesse qu'il fait à Abraham, mais il le fait à un moment précis. Il le fait au moment où Abraham a accepté d'obéir, de sacrifier son propre fils, que Dieu avait dit que c'était par lui que le Messie viendrait. Alors, quelque part dans la tête, faut essayer de comprendre, parce que... Genèse 22, versets 16 à 18. Et dit, « Je jure par moi-même, dit l'Éternel. » Est-ce que l'Éternel a besoin de jurer pour qu'on sache que c'est la vérité? Mais quand il dit « Je jure par moi-même », il veut mettre encore une emphase particulière sur cette vérité-là. Dieu jure par lui-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, en voulant dire d'offrir son fils, et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. C'est à qui la postérité qu'on a vue dans Galates 3.16? La postérité, c'est Jésus. Je vais multiplier, autrement dit, les croyants. Puis il prend une image qui est très forte. Il dit, comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Si vous allez fouiller dans les encyclopédies pour essayer de savoir combien il y a d'étoiles dans le ciel, vous allez être littéralement renversé. Des milliards! Et les sables, vous irez sur la plage, là, des plages où il y a bien du sable, vous essayerez de compter les grains de sable, vous allez voir que vous allez avoir de l'ouvrage longtemps. Alors le Seigneur dit à Abraham, « Parce que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai certainement, je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Tu es en train de dire Jésus sera vainqueur. Ta postérité, c'est Jésus posséder la porte de tes ennemis, donc il va vaincre. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors les promesses, Genèse 3.15, Genèse 12, Genèse 22, tout ça, il faut garder ça en mémoire si on veut apprécier le texte aujourd'hui. Parce qu'il est en train d'accomplir ce qu'il a dit. Alors, le Seigneur avait commencé l'accomplissement de sa promesse malgré une chose très importante. Qu'est-ce que c'était la première difficulté? La stérilité de Sarah. Il avait 99 ans, il était sur le bord d'avoir 100 ans, sa femme avait 90. Sa femme, en plus, était stérile. Puis là, le Seigneur a fait une promesse qui était le Messie va venir par toi. Mais là, toi, tu es là, tu attends. Il avait fait la promesse, il avait 75. Il était rendu à 99, presque 25 ans après. Il ne se passe à rien. Imaginez-vous le combat qu'il devait avoir dans son coco, comme on dit. Tu me fais une promesse, ça fait 25 ans, je vais atteindre, il ne se passe à rien. Pas pour rien que sa femme a eu une faiblesse, puis elle a dit, va ma servante. Elle pensait, elle, d'aider Dieu. Elle pensait que sa solution, c'était ça qui permettrait qu'elle ait le fameux enfant par lequel viendrait le Messie. Alors, il y a eu la stérilité de Sarah et aussi le manque de foi d'Abraham. Parce que si Abraham a écouté ce que son épouse lui suggérait, c'est parce qu'il manquait de foi lui aussi. Alors, Dieu a accompli un miracle, celui de donner un enfant à une femme de 90 ans et à un homme qui a 100 ans, qui normalement étaient tous les deux hors de l'âge de procréer. Alors Dieu voulait montrer sa fidélité malgré l'apparence d'impossibilité qui était due à la stérilité de Sarah et au vieil âge du couple. Dieu, on dirait, il se complaît à nous montrer que tout ce que nous on considérait comme impossible, lui, il dit, on va te le montrer, si c'est pas possible. Ta femme est stérile. L'année prochaine, à cette date, tu reviendras et tu vas l'avoir, ton enfant. Il l'a eu. Mais le Seigneur, le texte d'aujourd'hui, fait en sorte que l'histoire se répète. C'est intéressant de voir les deux aspects, là. Alors, on se doit de faire quelques observations pour mieux comprendre et mieux apprécier la grâce du Seigneur. Vous voulez faire, peut-être que vous avez lu le texte puis vous ne l'avez pas remarqué. La première, c'est que les rabbins juifs nous apprennent que l'âge moyen des mariages à l'époque était autour de 20 ans. Les juifs, à l'époque, se mariaient autour de 20 ans. Comme règle générale, je dois avoir des petites variations. Mais alors ici, Isaac, il s'est marié, mais il avait 40 ans. Oh, déjà, il y a quelque chose ici. Deuxième chose, le texte nous dit, dans le verset, qu'il avait 60 ans. 20 ans, lui, l'autre, lui, s'était passé 25 ans. Il avait 75, c'est ce qu'il s'est fait promettre. Il l'a eu à 100 ans. Lui, il s'est marié à 20 ans, mais il a eu son enfant, il s'est marié à 40 ans, il a eu son enfant à 60 ans. Donc, ça faisait combien d'années qu'il attendait, lui? 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'il attendait lui aussi que la promesse que Dieu avait faite s'accomplisse. Et lui aussi rencontrait le même problème qu'Abraham. Sa femme était stérile. On voit la répétition, Dieu aime montrer que les choses qui, pour nos yeux, sont impossibles, pour Dieu, c'est possible. Alors, 20 ans se sont écoulés depuis la promesse divine que la lignée messianique viendrait par Isaac. Il est rendu à 60 ans, là, puis ça fait 20 ans qu'il attend que la promesse se réalise. Lui aussi, dans sa tête, puis dans la tête de sa femme, il devait avoir un petit problème. Mais une chose que vous remarquez, c'est qu'elle n'est pas tombée dans le même pattern qu'Abraham et Sarah. Eux, ils ont procédé de façon différente. Puis c'est quoi la différence? On a dit que le premier point, c'était la prière. Voyez-vous? Alors, Genèse 24, 60. Et il bénit Rebecca. Souvenez-vous de ce qui avait été dit quand le serviteur d'Abraham avait été chercher l'épouse. Et quand, un petit peu avant qu'elle s'en aille, qu'il parte, la famille avait dit la chose suivante à cette femme-là. Et il bénit Rebecca. Alors, sa famille, quand elle est partie pour aller rencontrer son mari, et il bénit Rebecca et lui dire, « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? » Des milliers de myriades, ça veut dire des millions. Myriades, c'est milliers, milliers de myriades, donc des millions. Il est en train de te dire, il fait la bénédiction, la famille a fait la bénédiction. « Toi, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ceux qui la haïront? » Là, on s'en va dans Genèse 25, verset 26. Et après cela, sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui veut dire supplanteur. Pourquoi on l'appelle supplanteur? Parce que c'est lui qui a eu les bénédictions qui étaient rattachées au droit d'aînesse. Ça aurait été supposé d'être Ésaü qui l'avait, mais on se souviendra, la semaine prochaine, on va étudier le passage où Ésaü l'a vendu pour un plat de mine. Son droit d'aînesse, qui comprenait que par sa descendance viendrait le Messie. Il y avait là-dedans un mépris du Messie, puis une attention centrée sur son appétit immédiat sans penser aux choses à l'avenir là-dedans. Et ça dit dans le verset 26, « Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent, les deux, les jumeaux. » Donc, on sait qu'il s'est marié à 40 ans. On sait que les jumeaux, 60 ans, il y avait 60. Donc, il faut faire la déduction, ça fait 20 ans qu'ils attendent. Et là, il y a un autre problème qui nous est mentionné dans le texte, qui est le même. Rebecca était stérile. Elle ne pouvait pas, elle non plus, avoir d'enfants. Imaginez-vous le Seigneur qui fait des promesses à l'aide de femmes qui sont stériles. Puis là, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Le Seigneur veut montrer que ce n'est pas par les hommes que va venir le Messie, c'est par des interventions miraculeuses de lui-même. Vous, dans Genèse 25, 21, ça dit quelque chose. Pour ça que je dis que le premier point, versets 19 à 21, c'est vraiment la prière. Parce que ça dit, « Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme. » Ça veut dire ça, « instamment ». Instamment, ça veut dire avec grande ferveur. Il a dû broyer, comme on dit. Seigneur, tu m'as fait une promesse. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait 20 ans que j'attends. Mettons-nous dans le pot un peu. Là. Puis c'est quoi qu'il a vu comme solution, lui? Sa femme, elle a-tu dit, ben, va vers ma servante, puis le Messie va arriver par la lignée va se poursuivre par là? Non, la prière. Dieu se sert parfois de la prière pour accomplir ce qu'il a promis. C'est important de réaliser ça. Priant instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur fait venir sa lignée avec des femmes stériles. C'est-tu extraordinaire, ça, ou c'est pas extraordinaire? Et l'Éternel, moi j'aime beaucoup la deuxième partie du verset, et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Faire fléchir quelqu'un, ça veut dire il cède. Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu avec ferveur. Seigneur, comment veux-tu que je l'aie, le fils promis? Ma femme est stérile, ça fait 20 ans qu'on attend. L'Éternel fut fléchi. Je trouve ça tellement beau. Fléchi. Ça veut dire que l'Éternel est fléchi parfois par nos prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. La deuxième fois, là. Puis, vous allez voir qu'au cours de l'histoire, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, il y a des stérilités qui sont guéries par le Seigneur. Alors, le Seigneur va accomplir sa promesse tout en éprouvant la foi de Rebecca et d'Isaac. Et il fait quoi en même temps qu'il va accomplir? Il exerce la foi de ses enfants. Il exerce leur patience. Il leur enseigne à continuer d'avoir la foi en l'exaucement et il leur enseigne à apprendre à utiliser le puissant moyen de la prière. Y a-t-il une leçon pour nous autres, selon vous, là-dedans? Une grande, grande, très, très grande. Nous aussi, il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies où la solution qu'on voit nous semble carrément impossible. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et la solution qu'ils ont utilisée, c'est la solution que nous devons nous aussi utiliser, soit la prière fervente. On ne lâche pas la patate, comme on dit en québécois. Quand on a des enfants qui ne sont pas sauvés et qu'on prie pour eux pour ça depuis 20, 25 ans, c'est long 20 ans. C'est long 25 ans. Puis c'est long 30 ans. Mais Seigneur, des fois, il va se servir de ce temps-là pour t'éprouver et te démontrer qu'il faut que tu persévères malgré toutes les difficultés qui te semblent, à première vue, insurmontables. Très belle leçon de ce chapitre-là. Alors, Dieu accomplit sa promesse en exaucant la prière. Alors, Dieu a voulu montrer à Isaac et à Rebecca que la venue du Messie serait surnaturelle et miraculeuse. Il n'y a rien que Dieu qui est capable de prendre une femme stérile puis de la faire en sorte qu'elle puisse avoir un enfant. Il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Alors, pour le couple, ce fut très certainement une très rude épreuve. Il se devait d'apprendre à prier et à se confier à lui pour l'exaucement, malgré les apparentes impossibilités. Si on ne voit pas d'application pour nos vies de tous les jours, on manque le bateau. Parce qu'on a, nous aussi, des choses qu'on demande à Dieu pour, disons, le salut de nos enfants. Des fois, ça fait 25 ans qu'on prie. Des fois, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement de fois qu'on le demande que là, vu que ça n'arrive pas, on pense que ça arrivera jamais. Non, il faut continuer, il faut continuer, il faut persévérer. Alors, il devait apprendre à prier et à se confier en lui, malgré les apparentes impossibilités, qui est une situation, en passant, qui est très semblable à celle de Sarah et d'Abraham. On doit remarquer qu'Isaac et Rebecca n'essayèrent pas d'imiter Abraham et Sarah. Ça, c'est à leur, on pourrait mettre ça à leur crédit. Ils n'ont pas fait comme l'autre. Dieu, autrement dit, a essayé d'avoir la lignée messianique promise à l'aide d'une mère porteuse. C'est ça que l'autre avait essayé de faire. Alors, ces 20 années d'attente ont dû leur paraître interminables. Un peu comme nous, quand on prie pour le salut de quelqu'un qu'on aime, puis ça fait 20 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe le nombre d'années, on voit que ça n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Continuons à intercéder. Alors, bien entendu, ça leur a contribué à leur montrer qu'il y avait une seule solution possible dans ce cas-là, dans cette situation-là, c'était la supplication, la prière. Les Anglais, ils ont un beau terme que j'aime beaucoup, « knee work ».« Knee », ça veut dire « genou ».« Work », ça veut dire « travail ». Si tu veux obtenir quelque chose qui te semble impossible, fais du travail de genou. Lui est capable. N'importe quoi, tu peux lui demander. Donc, la prière fervente est puissante parce qu'il disait, il pria instamment Dieu de pour sa femme, il dit, priant instamment Dieu pour sa femme, parce qu'il savait qu'elle était stérile. Donc, on doit prier sans cesse et sans se décourager. Si on va chercher un passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de ça, Luc 18, verset 1, où on parle du juge unique. Vous devez sûrement vous souvenir de ce passage-là. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Ils ne nous disent pas combien, à partir de quel moment il a commencé à prier, mais selon moi, il faisait longtemps qu'il priait. Puis il demandait encore au Seigneur. Mais ça n'arrive pas, Seigneur! Et le Seigneur a fini, fut fléchi. Quel beau... Les couples aussi, je pense qu'il y a une autre leçon là-dedans pour nous montrer que les couples doivent prier ensemble. C'est une chose qui se perd un peu de nos jours. Prier ensemble. Des fois, on prie seul dans nos chambres, c'est correct, mais prier en couple, parce qu'ils ont sûrement prié les deux ensemble aussi. Alors, dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 7, je pense qu'il nous parle aussi du verset, il nous parle aussi de cette idée que c'est valable pour un couple de prier ensemble. Ça dit, « Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. » Il ne dit pas que ta prière, vos prières, puis parle un couple. Alors, la prière en couple, c'est une bénédiction. Dieu aussi exauce la prière et accomplit ses promesses à travers elle. Le Seigneur aurait bien pu permettre qu'elle ait l'enfant tout de suite. Il s'est marié à 20 ans, à 21 ans, après avoir l'enfant. Il les a fait languir. Il y avait de quoi à leur enseigner à travers tout cela. Alors, le Seigneur utilise la prière d'Isaac pour réaliser sa promesse. Cette prière fervente devient le canal conducteur du décret et de la promesse divine. Dieu avait dit que ça arriverait depuis Genèse 3.15, il l'avait dit dans Genèse 12, il l'avait dit dans Genèse 22. Mais il se sert de la prière pour accomplir ce qu'il avait décidé, mais à travers la prière. Une leçon très importante à retenir pour nous aussi là-dedans. L'Éternel fut fléchi par ses prières. J'aime beaucoup le terme « fut fléchi ». Autrement dit, ça montre que l'Éternel est souverain. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il accorde, qu'est-ce qu'il n'accorde pas. Mais il faut faire le lien aussi entre la ferveur de la prière et l'exaucement. Pria instamment, et l'Éternel fut fléchi. Alors, je pense que le verset nous montre une grande puissance éducatrice pour nous. Cette expression « et l'Éternel fut fléchi par ses prières », remarquez, le mot est au pluriel. Le texte ne dit pas « et l'Éternel fut fléchi par sa prière ». L'Éternel fut fléchi par ses prières. Donc, ça implique la répétition, ne plus qu'une. Alors, nous aussi, il y a une leçon pour nous là-dedans. Pas à cause que tu n'as fait une, que tu n'as fait 10, que tu dois arrêter. Tu n'as fait 100, fais-en 101. Tu n'as fait 1000, fais-en 1001, et etc. Alors, le mot prière est au pluriel, indiquant qu'Isaac et Rebecca furent persévérants dans l'intercession, et dans leur confiance que le Seigneur avait la puissance nécessaire pour réaliser de leur donner un enfant malgré les apparentes impossibilités, encore une fois. Si ta femme est stérile, Dieu a dit qu'il réaliserait la lignée messianique par ta femme, puis ta femme est stérile, ça cause un problème dans ta tête, ça c'est sûr et certain. Deuxième point, Dieu accomplit sa promesse par la protection. Genèse 25, 22, « Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Autrement dit, elle mettait sa propre vie en... Pourquoi que je vis? Ça me donne quoi de mourir? Tu promets que je vais avoir un enfant, puis quand que tu accomplis la promesse, ça n'emmène dans ma vie que de la douleur et que de la misère. Les enfants qui se mettaient dans le sein, là, apparemment que les mots hébreux, c'est vraiment la chicane. C'est comme Ésaü qui représentait la chair, puis Jacob qui représentait le côté spirituel, c'est comme déjà la chair et le spirituel, dans le sein de la mère commençait déjà à se manifester le combat, avec une très grande vigueur. Alors bien sûr que Dieu a besoin de protéger plusieurs choses. La vie de Rebecca. Elle est tentée par le découragement parce que quand elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je? » Autrement dit, qu'est-ce que je fais ici sur cette terre-là? Tu m'exauces, puis en m'exauçant, tu permets que ma vie soit encore plus pénible qu'elle était avant. Alors Dieu, la miséricorde de Dieu envers Rebecca se transforma rapidement pour elle en doute, en souffrance et en profond questionnement. Imaginez, ça fait 20 ans, tu pries, et là l'Éternel t'exauce, tu viens enceinte, mais que le fait que tu sois enceinte est tellement problématique qu'elle a peur d'y laisser sa propre vie. Que c'est que je fais ici? Autrement dit, elle ne se rend pas compte que la bénédiction de Dieu peut parfois amener des difficultés qu'on n'avait pas avant. Belle leçon aussi, hein, pour nous aussi. Alors, sa grossesse est pénible et douloureuse. Elle est mécontente et elle est près du découragement. Pourquoi suis-je ici? Sa propre existence. Là. Pourquoi que je fais ici? Voilà. Alors, lorsque nous sommes dans les épreuves, même les miséricordes de Dieu peuvent provoquer en nous du mécontentement. Il y a des leçons spirituelles dans un petit texte comme ça, 19 à 26. Là, si on se mettrait à méditer ce que le Seigneur est en train de dire, c'est riche, il nous enseigne plusieurs choses. Et bien entendu, je pense qu'il vient aussi protéger la santé de Rebecca. Parce que quand tu as une grossesse pénible comme ça, puis qui dure 2 mois, là, puis que ça te fait mal dans le ventre continuellement, puis toi, tu te dis, c'est ça la réponse. Oui, j'étais stérile, mais la réponse, ça fait en sorte que ça fait mal, puis j'ai même peur d'y laisser ma propre vie. Alors, Dieu avait besoin de l'encourager à travers tout ça. Et le troisième point, c'est que Dieu accomplit sa promesse par la prophétie. Le Seigneur, on le sait, est le plus grand pédagogue. Il ne peut pas exister. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Il peut pas, on ne peut pas avoir plus grand pédagogue que le Seigneur. Et il va se servir de sa réponse à Rebecca pour enseigner des précieux principes qu'on doit se rappeler en tout temps. Le premier principe qu'il veut nous enseigner par ça, c'est que Dieu est souverain dans l'établissement de la prééminence de son peuple. Son peuple, c'était pas le premier enfant qui est sorti. Normalement, le premier qui sortait, c'est lui qui avait ce qu'on appelle le droit d'aînesse, qui avait plusieurs privilèges qui étaient rattachés à ça. Et celui qui va représenter son peuple sort en deuxième. C'est le Seigneur qui détermine la prééminence de son peuple. Autrement dit, le peuple juif, dans le courant de l'histoire, va devenir fort, mais ça a pris du temps, la prééminence de son peuple. Le peuple de Dieu aura la prééminence du point de vue national. Donc, les Juifs, dans l'Ancien Testament, ont eu la prééminence sur plusieurs peuples dans le courant de leurs histoires. Quand ils étaient obéissants, Dieu permettait qu'il y avait toujours la prééminence, t'as toujours les premiers, t'as toujours les bénis. Mais quand ils désobéissaient, Dieu se servait des nations pour les juger et pour les corriger. Alors, le Seigneur veut montrer ici que celui qui paraît le plus faible, qui est sorti le deuxième, qui tenait le premier par le talon, c'est lui qui va représenter, c'est par lui que va venir la race élue. Alors, on dit dans Genèse 25, 23, 24, « Et l'Éternel lui dit, il veut lui expliquer qu'est-ce qui se passe. » Autrement dit, le combat charnel qui se passe dans ton ventre, là, il va se produire, autrement dit, entre les convertis et les inconvertis sur une période indéfinie de temps, ça va toujours exister. Il est en train de lui enseigner quelque chose de très important. « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples sortiront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. » C'est-tu le premier qui est le plus fort ou le deuxième? C'est le deuxième, c'est Jacob. « Et le plus grand servira le plus petit. » Autrement dit, celui qui est sorti le premier, qui était le plus fort pour sortir de la matrice de sa mère, va devenir le serviteur de celui qui est sorti le deuxième. Celui qui était sorti le deuxième représente quoi? Les êtres régénérés par le Seigneur, les êtres spirituels. Alors, il dit, le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et c'est là les deux nations, les Juifs et Ésaü, les Édomites, et symboliquement, autrement dit, les croyants avec les incroyants. Le Seigneur veut apprendre à Isaac et à Rebecca qu'il est le souverain dans ses actions. Il y a deux passages, même trois, on va aller les lire les trois, pour voir comment le Seigneur se sert du passage d'aujourd'hui pour nous enseigner des choses qui vont être dites plus loin dans les Écritures. Isaïe 45, versets 5 à 7. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint quand tu ne me connaissais pas, afin qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. » Remarquez le dernier verset. Il dit, « C'est moi qui forme la lumière, qui crée les ténèbres. C'est moi qui fais la prospérité et qui crée l'adversité. » Quand il y a de l'adversité dans nos vies, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a créé. Il dit, « C'est moi, l'Éternel, qui fais toutes ces choses. » La souveraineté de Dieu dans nos vies. Un autre passage, parce qu'on a vu que le plus fort, celui qui est sorti en premier, le Seigneur, il ne dit pas lui qui va être fort, c'est celui qui va sortir en deuxième. Et le Seigneur nous montre quelque chose aussi dans le Nouveau Testament par rapport à ce principe-là. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 25 à 29. C'est un passage qu'on a de la misère à s'attribuer à nous-mêmes, parce qu'ils disent des choses sur nous qui ne sont pas très agréables à l'oreille. 1 Corinthiens 1, versets 25 à 29. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il est en train de nous dire qu'on n'est pas des sages. Ni beaucoup de puissants. Il est en train de nous dire qu'on est des faibles. Après ça, il dit ni beaucoup de nobles. Il n'y a pas grand-chose de noble en nous. C'est-tu le fun de se faire dire ça? Pas vraiment. Après ça, ça dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Il est en train de me dire que je suis une chose folle. C'est-tu le fun de se faire dire ça? Pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde. Il est en train de te dire que tu es faible en plus. Pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles. C'est quoi les choses viles? C'est une chose sale qu'on désire jeter, c'est vil. Il nous dit qu'on est faible, qu'on est pauvre, qu'on est misérable et qu'on n'est pas puissant. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées. C'est un passage qui nous humilie. Hein? Je ne sais pas si ça vous humilie, mais moi ça m'humilie. Puis c'est correct comme ça. Et j'ai plus de misère à l'accepter du tout, ce verset-là aujourd'hui. Je sais que je suis fou, je sais que je suis vil, je sais que je suis faible, je sais que je suis misérable. Mais par la grâce de Dieu, j'ai acquis la vie éternelle, j'ai acquis le pardon de mes péchés, etc. Et il nous dit qu'il y a une raison pourquoi il a fait ça. Verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » Dieu est souverain dans l'élection de ses élus. Là, on va voir que dans Romains 9, qui est un super de beau passage, où Dieu, par le Saint-Esprit, vient nous enseigner, remettre ce qu'on vient d'apprendre sur Ésaü et Jacob, et nous les remettre dans le contexte de l'élection, en servant des deux personnages, Ésaü et Jacob. Romains 9, versets 7 à 14. « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca. Voyez-vous le texte d'aujourd'hui qui nous revient dans Romains. Quand elle eut conçu en une fois deux enfants, d'Isaac, notre père. Et le verset 11, aussi, on parle d'élection aussi. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit. On recule là, au texte d'aujourd'hui. Là. Il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Le plus vieux, Ésaü, va être assujetti, puis c'était supposé être le contraire. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, c'est vraiment l'image qui a aimé Jacob et donc tous les êtres régénérés, tous les êtres qui ont reçu la grâce de Dieu. Et j'ai haï Ésaü, donc, qui implique, Ésaü devient le symbole de tous ceux, tous les régénérés de tous les temps, de toutes les époques, de tous les pays. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Et la réponse est nullement. Dieu a le droit de choisir qui veut, donner sa vie à qui veut, faire grâce à qui veut, faire miséricorde à qui veut. Et on n'a pas un mot à dire. Donc, la lignée d'Ésaü, c'est un symbole des hommes naturels dans les Écritures. Alors, dans Genèse 25, donc Ésaü est dans la continuité des hommes charnels. Caïn, Ismaël, Ésaü, et ça va continuer jusqu'à Jésus. Quand Jésus est venu, il y avait encore des élus, il y avait encore des les Juifs avaient uniquement gardé le côté cérémoniel des choses, ils n'avaient pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Alors Dieu veut enseigner les caractéristiques des deux lignées, dans leur corps, dans l'ordre de leur naissance et dans leur tempérament. Dans leur corps, déjà Dieu démontre par le corps même d'Ésaü qu'il représente l'homme charnel. Ça dit qu'il sortit le premier, était roux, tout velu comme un manteau de poil, ils l'appelèrent Ésaü, et ça veut dire velu. Donc l'image spirituelle que le Seigneur est en train de montrer, c'est que cet homme-là était non seulement physiquement, avait l'air plus d'un homme animal que d'un homme spirituel, mais plus tard, ça va se... Alors, il naît velu, avec un manteau de poil. Il semble qu'il sera robuste, actif et un homme d'action. La suite de sa vie, quand on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les prochains chapitres, va démontrer qu'il est un être impulsif, aveugle aux réalités spirituelles, parce qu'il va vendre son droit d'aînesse, dominé par ses passions. On sait que quand il a vu que son frère, il avait fait un petit tour de passe-passe, il a voulu le tuer. Ça ressemblait à qui, ça? Ça ressemblait à Caïn. Et qu'il n'a pas de crainte de Dieu, et qu'il vit uniquement avec les préoccupations du temps présent, sans réfléchir à l'éternité. Ça ressemble-tu à des êtres régénérés, ça, autour de nous autres? Oui, parce qu'Ésaü, il représente tous les êtres régénérés de tous les temps. Ils ont toutes les mêmes caractéristiques qu'on vient de nommer là. C'est le symbole des hommes naturels. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 14. Or, l'homme animal, quand il parle de l'homme animal, il parle de quoi là? Il parle de l'homme irrégénéré, l'homme qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lors de leur naissance, et alors on sait que Ésaü était le plus fort, il est sorti le premier, il est plus fort physiquement, mais Dieu dit que ça va être le deuxième qui va représenter la lignée messianique. Leur tempérament, on voit que Ésaü est à l'image des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont pas la foi. Comme Ésaü, ils sont accrus au sport, à toutes les formes d'amusement, et ils ont les yeux fixés sur cette terre. Quand on regarde autour de nous, les êtres régénérés, c'est quoi qu'ils ont comme caractéristique? Ils pensent un à la vie ici, maintenant. Ils ne pensent pas que plus tard, ça va se poursuivre leur vie et que ça ne se poursuivra pas nécessairement comme ils pensent. Il y en a qui disent, « Ah ben là, moi, ça ne me dérange pas, il va y avoir un trou, ils vont me mettre dedans, ça va être tout. » Je regrette, mais ça ne sera pas tout. Alors, si tu n'y penses pas maintenant, quand tu vas mourir, il va être trop tard pour y penser. Alors, bien entendu, les tempéraments là-dedans, on voit que Ésaü est à l'image des hommes qui ne connaissent pas Christ, mais l'autre, lui, Jacob, On va voir que son tempérament, dans la semaine prochaine, on va voir que son tempérament plus tranquille, se tenait dans les tentes, t'as le préféré de sa mère, l'autre t'as le préféré de son père. On reviendra là-dessus, là. Mais c'est juste pour démontrer que déjà, dès leur naissance, il y avait des caractéristiques qui démontraient un petit peu leur avenir. On va aller dans Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 17, et après on va être rendu aux applications. C'est important de réaliser ce que le Seigneur est en train de dire, parce que le mot Ésaü va nous revenir dans l'histoire de l'Ancien Testament, et même il revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Alors, on a vu Romains, mais on va voir aussi Hébreux. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 17. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateurs ni de profanes comme Ésaü qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. » Quand on va arriver sur ce chapitre-là, la semaine prochaine, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce que ça impliquait le droit d'aînesse. Mépriser le droit d'aînesse, c'était une très grave péché spirituel, de nature spirituelle. Car vous savez que voulant, même après cela, héritier de la bénédiction, on sait qu'après il a broyé puis il a voulu l'avoir à la bénédiction. Ça dit, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demandât avec larmes. Il l'a demandé, mais c'était trop tard. Trois applications. La première, je dirais, soyons encore plus conscients de la puissance de la prière et que le Seigneur nous apprenne à l'utiliser et que le Seigneur l'utilise très souvent aussi pour accomplir ses promesses et son plan qu'il a sur chacune de nos vies. Deuxième application, apprenons à nous contenter des miséricordes que le Seigneur nous accorde, même si celles-ci ne correspondent pas à nos désirs. Ayons pleine confiance en sa sagesse. Voyez-vous, le problème, c'est qu'elle était stérile, elle demande pour avoir un enfant, elle a la preuve que Dieu l'a exaucé dans son ventre, mais vu que ça fait mal, elle apprécie plus les miséricordes. Ça se pourra-tu que nous, le Seigneur, des fois, nous accorde des miséricordes, et que les miséricordes qu'il nous accorde, à cause qu'il y a un petit peu de souffrance dedans, c'est comme si c'était plus des miséricordes. Hein? Ça se peut-tu? Troisième, méditons davantage les Saintes Écritures. Nous avons beaucoup à apprendre des personnages comme Ésaü et Jacob. Notre grand Dieu est un merveilleux pédagogue qui nous enseigne symboliquement à travers ceux-ci et sur l'élection et sur le salut. Que le Seigneur soit loué, béni et adoré pour la Sainte Bible et les précieux enseignements que nous recevons à travers les patriarches du livre de la Genèse. Amen.